nous poursuivons et nous achevons cette matinée consacrée à Fernand Braudel et plus précisément sur les questions ayant trait à l'économie de marché, à sa vision du capitalisme, à sa vision des dynamiques inhérentes, disons, à l'histoire économique du capitalisme. Et nous achevons cette matinée en compagnie de Anne-Marie Frison-Roche, qui est professeure de droit économique à Sciences Politiques à Paris. Bonjour Anne-Marie Frison-Roche.
Bonjour.
Alors, Fernand Braudel, je ne sais pas si vous l'avez croisé sur votre route, mais en tout cas, à lire, je pense en tant que lectrice évidemment, mais à lire certains de vos articles, il y a quand même des thématiques qui sont parfois, je dirais, communes. Et il y en a peut-être une qui transparaît par-dessus les autres, c'est l'idée qu'il y aurait des dangers finalement à une autonomie de l'économie et que parmi ces dangers, disons, la phase capitalistique que nous traversons aujourd'hui, après la grande crise de l'automne 2008, mais après aussi évidemment la crise grecque récente et les difficultés des États européens à coordonner leur politique budgétaire. Donc il semblerait que le droit, de ce point de vue-là, si on vous suit par rapport à ce que vous essayez de dire sur la régulation possible, le droit pourrait nous aider peut-être à éviter ces dérives, en tout cas ces dangers de l'autonomisation accrue de l'économie et notamment de la finance. Mais vous allez peut-être nous expliquer cela plus en détail.
Enfin, disons que j'aurais tendance, comme l'a fait tellement bien Fernand Braudel, à distinguer l'économie et la finance. La finance, dans un premier temps, c'est un outil nécessaire de l'économie, puisque la finance, c'est avant tout la monnaie, et la monnaie, c'est ce qui rend interchangeables les biens. Donc, pour faire une économie de marché, on a besoin de la monnaie, donc on a besoin de la finance, donc on a besoin des intermédiaires financiers, donc essentiellement des banques. Jusqu'ici, ça ne pose pas de problème. Il ne peut pas y avoir d'échange sans avoir de finance. C'est ce que Fernand Braudel appelle les jeux de l'échange. Là où il commence à y avoir des difficultés, c'est lorsque le capitalisme ne joue pas seulement son jeu de fluidifier les échanges, d'alimenter les industries et les structures en permettant la construction du capital social dans les entreprises, mais prend son autonomie. Quand la finance prend son autonomie, les banques deviennent des industries et prennent comme objet l'argent. Et là, l'argent se met à produire de l'argent et nous avons des marchés financiers qui ont pour objet les marchés financiers eux-mêmes. Ce qu'il faut par exemple savoir, c'est que les marchés financiers sont des sociétés anonymes et qui cotent sur elles-mêmes leurs propres actions. Donc ce sont des sortes de bombes, puisque vous avez des marchés financiers qui sont des sociétés qui sont cotées sur leurs propres marchés financiers. Imaginez qu'il y ait une défaillance de confiance, et à ce moment-là, tout s'effondre. Or, les marchés financiers sont absolument construits sur la confiance. Alors, il n'y a rien, puisque tout est dématérialisé. Dans une économie de marché, tout est réel, tout est matériel. Vous avez des biens, l'argent n'est qu'un outil d'échange, mais les biens sont matériels, donc vous avez encore confiance dans le pain que vous allez acheter, parce que vous pouvez sentir son odeur, vous pouvez toucher s'il est frais. Donc vous allez avoir confiance naturellement dans le bien. Mais dans l'argent, c'est un mouvement assez irrationnel et autoréalisateur. Donc comme on le sait très bien, sur les marchés financiers, il y a des effets autoréalisateurs qui peuvent créer des effets de panique. Et si vous avez un effet de panique, à la fois ça peut avoir des effets profiteurs si vous avez par exemple une grande confiance, ça va rendre très prospère les banques, mais si vous avez un effet de panique, tout va s'effondrer et rien ne peut arrêter la destruction.
Et on entend souvent dire que la finance et la financiarisation de l'économie, c'est irrationnel. Or, je ne sais pas si c'est... Enfin, on l'entend parfois dire. Hein, c'est irrationnel dans la mesure où ça échappe à notre contrôle. Mais enfin, c'est très rationnel. Ce sont les meilleurs mathématiciens dans les années 80, disons. Si on voit ce tournant, les meilleurs centraliens de France et de Navarre qui ont été embauchés et qui, ayant fait des études mathématiques sophistiquées, hein, ça avait été montré, même on avait même parlé de certains professeurs qui avaient été à l'initiative, disons, de cette complexification des modèles, hein, en termes quasi informatiques, des modèles financiers, donc qui sont au départ quand même relativement rationnels, enfin, si je puis dire, enfin, qui sort de tête, qui essaye de l'être.
Pour ma part, d'abord, je vois pas un rapport étroit entre le rationnel et les mathématiques. Il n'y a pas un rapport très étroit. Deuxièmement, on a hélas montré que les mathématiciens étaient assez souvent en conflit d'intérêts, puisqu'ils étaient payés par les banques pour faire des modèles qui se trouvaient être très favorables dans leurs résultats aux banques qui justement payaient les centres de recherche qui vivaient entièrement avec ces fonds apportés par les banques, ce qui rendait quand même moins fiables les résultats parce que les scientifiques doivent quand même être impartiaux et là, ils l'étaient beaucoup moins. Ce qui rend très difficile la financiarisation de l'entreprise. Pas son problème de rationalité ou d'irrationalité, c'est qu'elle a perdu son contact avec la réalité. C'est son caractère virtuel. Or, sa seule réalité pour la finance, c'est sa virtualité. Et dans la virtualité, qui est la seule réalité de la finance, il n'y a pas de limite. Or, dans l'économie réelle, il y a une limite. Mais vous ne pouvez pas produire 1000 pains, 2000 pains, 100 000 pains. Mais en finance, si. Vous pouvez titriser autant que vous voulez. Vous pouvez faire des dérivés d'actions autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Parce que justement, ce ne sont que des chiffres. Donc vous pouvez mettre autant de zéros que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Dans l'économie réelle, il y a de la limite. Donc comme il y a de la nature, il y a de la limite. C'est là où il y a de la raison. Parce que la raison, c'est comme dans le droit naturel classique. Le droit naturel classique, c'est un droit naturel qui nous protège parce que ça limite de la déraison. Parce qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Il faut s'arrêter. La nature fait que ça s'arrête. On ne peut pas dire qu'il fait nuit quand on est en plein jour. C'est pas possible. Alors qu'en finance, c'est possible. Puisque comme vous avez mis des algorithmes, en algorithme, vous pouvez tout dire, puisque vous pouvez mettre des zéros absolument autant de lignes que vous voulez. Donc c'est cette rupture avec la réalité qui fait que nous sommes tombés dans l'irrationnel.
Alors, qu'est-ce qui différencie fondamentalement la finance telle que l'a étudiée Fernand Braudel pour le 15e, 18e siècle, la lettre de change, où, bon, effectivement, où on peut suivre relativement bien, bon, grâce aux archives de Dubrovnik, de Gênes, etc., etc., mais disons, Séville, la financiarisation d'aujourd'hui. Vous connaissez, je crois, l'économiste Pierre-Noël Giraud, qui a écrit un livre qui s'appelle Le commerce des promesses.
Oui.
C'est un joli titre, bon, pour expliquer, bon, effectivement, la finance, c'est toujours une promesse sur l'avenir, hein.
Oui.
C'est peut-être pas toujours virtuel, mais c'est néanmoins toujours une promesse sur l'avenir. Alors, ça serait quoi pour vous la grande différence entre la finance des 15e, 18e siècle et la nôtre, pour ne pas entrer dans le détail du 19e siècle?
Oui. Alors, la lettre de change, qui est un objet assez chéri pour les juristes, parce que c'est le droit cambiaire. Hein, le droit cambiaire, c'est le fait qu'on prend précisément un titre qui se détache de la réalité, de ce qu'on appelle le rapport fondamental en droit. Et donc, on va faire confiance au seul papier. Donc c'est le titre cambiaire, donc c'est vraiment la finance qui commence à apparaître effectivement. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir voyager. Donc par ce biais-là, la finance va permettre l'internationalisation des échanges et on va pouvoir voyager avec simplement du papier. Mais ce qui intervient, c'est deux phénomènes, c'est la mondialisation, et la véritable mondialisation, c'est celle de la finance, parce que il y a une dématérialisation, et la dématérialisation, c'est celle qui est née de la technologie. Et ça, Fernand Braudel, vous ne pouvez pas le voir, c'est l'informatique. Voilà, c'est le numérique. Et le numérique a tout changé parce qu'elle a fait disparaître deux choses qui, jusque-là, avaient toujours existé, c'est l'espace et le temps. Et jusqu'ici, quand bien même il y avait internationalisation des échanges, quand bien même on voyageait plus loin et plus vite, il y avait encore de l'espace et du temps. Mais aujourd'hui, en finance, il n'y a plus ni espace, ni temps. Vous pouvez, en un instant et partout dans le monde, faire des échanges et dans des espaces et dans des masses absolument considérables. Donc, il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps.
Alors, est-ce qu'on peut réintroduire cet espace et ce temps ? Le juriste Alain Supiot, je crois que vous affectionnez, aime à distinguer le mot régulation du mot réglementation. Il dit on régule son chauffage et on réglemente l'économie de marché lorsque celle-ci est atteinte de déréglementation. Alors, je ne sais pas si les termes sont importants, mais en tout cas,
les termes sont très importants. Mais... Et en plus, Alain Supiot est à la fois un grand ami et à la fois nous disputons toujours beaucoup ensemble.
Très bien.
Toujours
très
beaucoup.
Bien. Donc, c'est la preuve que c'est un grand ami.
Absolument. Parce que nous, ce que moi je soutiens, c'est que une fois que l'on a posé le diagnostic et qu'on a dit que cette état du monde était mauvais parce qu'il était destructeur des faibles et que cela suffisait à poser un jugement négatif sur cet état du monde et que le droit a un devoir qui est de protéger les faibles et que donc il faut que le droit essaye de faire quelque chose pour que cet état ne perdure pas. Il faut essayer de faire quelque chose. Et là, je trouve que le livre d'Alain Supiot n'arrive
L'esprit
pas.
L'Esprit de Philadelphie.
L'Esprit de Philadelphie,
paru,
voilà, qui vient de paraître 2010. En 2010 au Seuil, n'arrive pas à formuler les solutions que le droit pourrait proposer. Alors, ce qu'il me dit, parce que nous disputons par email, non seulement de vive voix, mais également par email, il me dit « c'est déjà bien d'en parler ». En cela, il a raison, parce que comme le droit est un acte de langage, il n'est pas rien que le droit intervienne et dise « cet état du monde n'est pas satisfaisant, l'écrabouillement des pauvres par cet état du monde qui est présenté comme un état de nature fatale n'est pas exact. Le capitalisme n'est pas une fatalité, mais est une construction qui a été faite par une dynamique qui a été élaborée par des banques, principalement.
Soulignons au passage, juste petite parenthèse, que Alain Supiot est spécialiste du droit du travail.
Du droit du travail, donc il est particulièrement sensible. Voilà. Et au fait, très techniquement, et particulièrement sensible aux sœurs des travailleurs, et qu'il connaît très très bien la zone de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde. Bon, donc il connaît très bien ces mécanismes de mondialisation.
Oui, tout à fait.
Mais que j'y suis aussi sensible, bien qu'étant spécialiste de droit économique, de droit des affaires, de droit des secteurs régulés, et connaissant assez bien le droit des États-Unis, et bien qu'étant sensible à ces marchés-là, je suis aussi sensible à la nature du droit qui est celui de faire la mesure entre le pauvre et le riche et d'arriver à tenir la balance entre les deux. Or, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut que le droit intervienne et déjà parle. Et le droit, pour le moment, reste absolument silencieux. Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le personnage qui pourrait intervenir, il y en a deux. Il y aurait d'abord le juge. Car celui qui intervient pour dire ce qui est juste, c'est le juge. C'est à la fois la position d'Aristote, c'est la position de Michel Villet, qui disait que celui qui dit quelle est la part qui revient à chacun, c'est le juge. Donc, nous devons avoir des juges internationaux qui doivent dire ce qui revient à chacun. Pour le moment, on n'en a pas tellement. Mais à travers l'Organisation mondiale du commerce, qui, à mon avis, est injustement décriée, nous pourrions avoir des jugements, et nous en avons à travers des cas où il y aurait des jugements rendus au bénéfice des pays pauvres. Et c'est le cas. Dans des grandes affaires sur des matières premières, sur le coton, sur l'uranium, sur des questions aussi importantes que ça. Les États-Unis sont condamnés et les pays d'Afrique se trouvent satisfaction. Donc les juges peuvent intervenir. L'autre personnage, ce sont les régulateurs. Tandis que les États qui, eux, comme l'a très bien montré Fernand Braudel, sont plutôt complaisants à l'égard des banques, ne sont pas les bons interlocuteurs ni les bons intervenants pour intervenir en la matière.
Vous avez dit qu'on est parfois injuste avec l'OMC. Vous n'êtes pas loin de penser sur ce point comme Pierre Legendre. Je ne sais pas si vous l'avez croisé sur votre chemin, mais je me souviens que dans un de ses films, justement, il montre que finalement l'OMC, dont on peut contester certains attendus, empêche peut-être parfois le pire.
Oui. C'est ce que je pense, oui.
C'est ce que vous pensez. Alors, est-ce qu'on peut embrayer sur cette idée, finalement, en essayant de nous interroger sur le droit global, puisque Fernand Braudel s'intéressait à l'histoire globale, enfin, les uns, il y en a d'autres qui appellent ça l'histoire totale, qu'importe, mais le droit global, ça croise ou ça ne croise pas le droit commun pour l'humanité de Mireille Delmas-Marty. Mais je pense que dans les domaines économiques où il y a beaucoup à faire avec les multinationales, ça a commencé aussi avec certaines associations comme l'association Sharpa, qui essaye ses moyens, disons, de lorsque des gens sont injustement atteints dans leur dignité au travail, de pouvoir justement rétablir un minimum de droits. Que ça voudrait dire quoi pour vous et comment faudrait-il s'y prendre ?
Moi, j'ai une vision assez simple du droit que peut-être je tiens de Jean Carbonnier. Donc une vision assez sociologique qui est de dire que pour être efficace, notion économique de base, pour être efficace, un droit doit être conçu et construit à l'image de son objet. Donc si l'objet est global, le droit doit être global.
D'accord.
Bon, en matière financière, les marchés sont globaux. Donc faut un droit global, des normes globales, un juge global. Donc tant qu'on n'aura pas d'État global, c'est pas la peine d'aller chercher du côté des États. Mais en revanche, on peut avoir des régulateurs globaux. On a le FMI d'un côté, on a l'OMC de l'autre. Et c'est de ce côté-là qu'il faut travailler. On a des arbitres internationaux globaux dont on ne connaît pas très bien la jurisprudence. Il y a le CERDI, par exemple, qui est au sein de la Banque mondiale. Le CERDI, c'est un organisme d'arbitrage international qui s'occupe de la protection des investissements étrangers dans les pays et qui rend très régulièrement des jugements, très efficacement. Donc, dans ces organismes-là, il peut y avoir des mécanismes de régulation. Et ce qu'il faut surtout, c'est toujours être à l'image de son objet. À ce moment-là, naturellement, il y aura une meilleure efficacité. Parce que si on cherche à être à l'extérieur de son objet ou être plus petit que son objet, parce que les États sont devenus très petits par rapport à l'objet, le marché financier est global. Un État est tout petit et il n'y a pas un État leader.
Et Anne-Marie Frison-Roche, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a déjà des difficultés au niveau européen, je crois qu'il y a
Mais justement, c'est trop petit.
C'est trop petit. Et les arrêts récents qui ont, je crois, il y a eu l'arrêt Bolkestein et puis d'autres, enfin, qui ont montré justement les disparités au niveau des droits eux-mêmes. Le droit anglo-saxon, le droit romain, c'est pas la même chose. Est-ce que ça interfère beaucoup pour vous dans votre réflexion sur le droit international, le droit des affaires, et cette harmonisation du droit européen, elle est quand même aussi essentielle, non? Non? C'est une première marche.
Pour ma part, je ne pense pas que ces querelles qui occupent énormément l'université sur la distinction, la querelle entre common law et civil law aient beaucoup d'importance.
Ah bon?
Non, je ne le sens pas, parce qu'on me dit toujours qu'en common law, le juge a beaucoup d'importance et qu'en civil law, il n'en a pas.
C'est
ce qu'on dit généralement. C'est ce qu'on dit aux élèves étudiants en première année de droit. Ouais. Bon, moi, aux 25 ans d'études de droit, je ne le vois pas. Parce que je vois en France, pays de civil law, un juge ayant beaucoup de pouvoir. Et je vois dans les pays de common law, une cour suprême qui est dans un système de check and balance et très tenue par la Maison Blanche. Donc, je ne vois pas vraiment la différence entre les deux systèmes. Je pense que ça, c'est une idée d'universitaire. Beaucoup plus que dans les réalités judiciaires. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on accorde tellement d'importance à ce sujet-là, qui est un sujet de système. Vous voyez, ça, c'est une vision internationale des choses. Mais avoir une vision internationale des choses, c'est supposer que les choses sont encore localisées dans deux endroits distincts et qu'on étudie les liens entre ces deux localisations. Mais nous n'en sommes plus du tout là. Nous sommes dans un endroit où il n'y a plus de localisation. Nous sommes dans un objet global. Alors pourquoi étudier des liens entre des localisations puisque nous n'en avons plus ?
Alors Anne-Marie Frison-Roche, le mariage à trois, histoire globale, économie globale, droit global, vous
oui.
seriez plutôt pour ?
Ah, je suis
ah,
absolument
oui.
pour.
Et donc vous œuvrez dans ce sens-là,
oui.
y compris dans la manière dont
oui.
vous enseignez
oui.
le droit et l'histoire économique, donc,
oui.
j'imagine.
Oui.
Alors, et ça va de pair donc avec la régulation, pour
oui.
vous.
Oui.
Alors comment ?
Parce que la régulation, elle doit être, et elle l'est absolument, elle l'est parce qu'on voit très bien que tous les régulateurs se mettent en réseau,
oui.
Se mettent en réseau mondiaux, demandent pas tellement l'avis au gouvernement, ils vont prendre le thé tous ensemble, peut-être que vous savez qu'à Bâle, par exemple, en Suisse, ils vont prendre très régulièrement le thé, et puis après, ils sortent des normes prudentielles qui s'appliquent à tous les pays. Et puis, de temps en temps, ils reprennent un deuxième thé parce qu'il y a un forum de stabilité. Voilà. Il y a un forum de stabilité monétaire aussi qui les soucie un peu. Et puis, voilà. Donc après, ils vont dans d'autres pays s'ils aiment boire d'autres...
Là, je comprends mieux pourquoi vous, tout à l'heure, vous avez employé le mot de virtuel. C'est-à-dire qu'effectivement, ce décalage entre la prise de thé là en Suisse, là, ça, c'est assez parlant et les normes...
Mais on sait que la régulation se fait comme ça depuis toujours ouais. en Angleterre. En Angleterre, le thé est très important parce que quand la Banque d'Angleterre invite une banque à prendre le thé, le président de la banque sent que ça va aller très mal pour lui. Bon, donc une invitation à prendre le thé ou une invitation à prendre le déjeuner, ce que Julia Black, qui est un professeur à la LSI, appelle la régulation conversationnelle. Les régulations sont très conversationnelles. Donc le droit y est à la fois très présent, mais c'est un droit très très souple, hein, justement à la façon Carbonnier. C'est un peu comme dans les familles. Il n'y a pas tellement de droits, mais quand même. Il y a beaucoup de règles qui passent à travers les dîners de famille. Donc, on se voit beaucoup dans les parties de golf ou bien pendant les vacances. Ou bien, on sait très bien que les crises financières se passent pendant les week-ends. On sait très bien que dans l'une des crises majeures, pourquoi est-ce que Lehman Brothers, ça s'est mal passé ? Parce que tout simplement, il y avait une partie des personnes qui pouvaient prendre des décisions qui étaient au quatrième étage et l'autre qui était au premier étage et qu'il y avait des gens qui étaient tout le temps dans les escaliers pour passer d'un étage à l'autre et qui donc étaient à la fin, qu'on avait assez parce qu'ils avaient mal aux genoux et que donc ils étaient avec leur téléphone portable et qu'à la fin, ça passait pas. Et donc, à la fin, ils ne pouvaient plus prendre les décisions. Et donc, la banque a fait faillite avec toutes les conséquences systémiques qu'on a eues. Bon. Donc, ce sont ces simples détails-là qui font les régulations. Et pas les énormes règles et machines étatiques et gouvernementales. Donc, ce sont des systèmes très souples où il faut que les gens se rencontrent. Donc, je serai, moi, pour organiser. Donc, surtout pas dans des maisons à étage. J'ai bien retenu ça. Pas d'étage et qu'on se rencontre, surtout comme on fait très bien en finance. Peut-être vous savez qu'en finance, il y a le processus Lanfalussy, donc qui a été un rapport qui a été fait par le baron Lanfalussy, qui est un ancien président de la Banque centrale italienne, qui a conçu entièrement des processus où se rencontrent les banquiers, les régulateurs, la haute administration, les gouvernants, et puis on parle, et puis ensuite il en ressort des normes, des décisions, et puis ceux qui vont appliquer les décisions participent dès avant aux normes qu'ils vont appliquer, etc. C'est complètement contraire à la conception française où on nous dit que c'est au législateur d'intervenir avant, et puis à celui qui applique la législation d'intervenir après. C'est complètement inverse. Et puis, on nous dit qu'il faut distinguer le pouvoir législatif et puis le pouvoir administratif. Et puis après, le pouvoir judiciaire, il faut les distinguer. En régulation, on mélange tout. On mélange absolument tout. On discute. C'est des conversations. Et puis, ça ne cesse de tourner. C'est une rhétorique absolument permanente. Absolument permanente. Et là aussi, il y a un grand auteur qui était Perelman et qui a très très bien décrit ça. Et Perelman, il était soucieux, il a suffisamment bien vécu, bien vécu, si j'ose ainsi m'exprimer, suffisamment atrocement vécu la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il cherchait à trouver des normes qui étaient à la fois légales, mais qui pouvaient n'être pas des normes nazies. Et donc, il s'est dit, eh bien, la solution, ça serait d'avoir des normes qui soient en permanence discutées, admises, et ceux auxquels elles s'appliquent seraient par avance discutés avec ces personnes-là. Et c'est ce qui se passe en matière de régulation.
Alors, quand on parle de régulation, on est plutôt en train de parler, si je comprends bien, à la fois de régulation financière, de régulation monétaire. Et chez Fernand Braudel, entre autres, il y avait aussi la circulation des biens matériels,
oui,
tout court. Et lorsqu'on étudie le capitalisme, on est obligé toujours, encore aujourd'hui, de distinguer le circuit de la production et le circuit de la consommation. Et c'est vrai que aujourd'hui, après l'entreprise fordiste, on a l'habitude de dire que, certes, la production doit se poursuivre et doit continuer sous la forme de la réindustrialisation, mais il y a aussi un problème du côté de la consommation. Enfin, pas tellement du côté du droit à la consommation, mais du côté tout simplement qu'il y a un moment où le désir, disons, de chacun s'épuise tout simplement à consommer. On ne peut pas consommer infiniment, même sous forme d'apéro géant, disons. Il y a donc cet excès, disons, qui est au cœur peut-être aussi de l'économie capitaliste, cet excès, disons, qui arrive. Comme, alors pas pour les pays en voie de rattrapage économique, évidemment, comme la Chine et l'Inde, etc., mais disons pour les pays qui ont connu la modernisation que l'on sait après la Deuxième Guerre mondiale, les fameuses Trente Glorieuses pour la France. Bon, c'est une question qui s'est posée. Est-ce que ça intéresse, disons, le circuit de la production et de la consommation, intéresse la juriste que vous êtes?
Alors moi, je travaille plus sur des mécanismes
de
régulation,
que sur les effets.
Plus que sur le constat sur l'émergence des nouveaux biens. Mais bon, j'ai tendance à travailler sur des mécanismes comme Internet, et Internet qui est un circuit de distribution que l'on n'arrive pas à réguler, donc qui est un problème en soi, favorise l'émergence de nouveaux biens. Et comme ça a été très bien démontré en Occident, le nouveau bien est un bien virtuel puisque c'est l'accès. Et ce que l'on vend aujourd'hui, ce n'est pas tant les biens que l'accès aux biens. Donc l'accès à la vertu, l'accès à l'air pur, l'accès à l'histoire, à l'expérience des autres. Voilà, c'est ça qui a pris de la grande valeur. Ce sont toute une nouvelle industrie de l'accès qui ça a été démontré il y a une dizaine d'années.
Avec Rifkin,
voilà,
notamment Jérémy Rifkin.
Exactement, oui. Exactement. Et ça, c'est une analyse très très pertinente, et on voit toute l'économie de l'accès qui s'est construite là-dessus.
Alors, qu'est-ce que vous gardez
Et pour ça, Obama a, comme d'habitude, une très bonne intuition en essayant de sauver l'Occident, en disant il faut développer l'économie verte. Parce que c'est évidemment, en réalité, construire un nouveau marché.
Qu'est-ce que vous gardez, alors, de Fernand Braudel, de son étude de...
Son extraordinaire perspicacité sur la catastrophe qui est en train de nous tomber dessus, d'une finance qui est devenue pure, c'est-à-dire autonome de l'économie réelle, ce que nous ne pouvons pas supporter, ce que l'être humain ne peut pas supporter. Sauf s'il est banquier, s'il est tombier, si. Lui, il est le grand gagnant de cette libération. Mais disons que les autres, les êtres humains normaux, ne peuvent pas supporter ce capitalisme pur. Et je pense que Fernand Braudel a été extraordinairement perspicace.
Vous êtes donc pour rétablir ce qu'on pourrait appeler un caractère raisonnable de l'échange ?
Par une seule limite que la réalité pourrait mettre à la finance.
Mais la réalité encadrée par le droit ?
Ce serait au droit, comme l'a fait le droit naturel, ce serait au droit de remettre la réalité comme limite à la finance, oui.
Bien, merci Marianne Frison-Roche. Pour ce dialogue très, très intéressant qui nous permet de, à la fois d'ouvrir l'histoire globale vers le droit global et peut-être de tenir un peu en étau justement cette fameuse économie globale que Fernand Braudel avait si bien étudiée pour les siècles passés. Merci beaucoup.
C'est moi.
Au cours de cette visite génoise consacrée à la mondialisation et à la civilisation matérielle, vous avez pu entendre Michel Ballard, Francesco Frumento, Antoine-Marie Graziani, Giuseppe Felloni, Olivier Mongin et Anne-Marie Frison-Roche. Texte de Fernand Brodel, lu par Claude Aufort. Prise de son, Jean-Pierre Pernel, Lidevine Caron. Mixage, Pascal Bénard. Attaché de production, Diane Lamant. Réalisation, Franck Lilin. Grande traversée, Fernand Brodel, l'historien monde, par Philippe Petit. Demain, pour poursuivre cette grande traversée, nous nous rendrons dans la Meuse, nous irons à Bar-le-Duc, mais aussi sur les champs de bataille de Verdun, et nous discuterons, c'est le cas de le dire, de la difficile, énigmatique, mystérieuse identité française, mais aussi du roman national, et ce qui en reste.